Campus.
Prochain arrêt dans ton
campus.
Il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école.
Campus.
Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard.
Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein.
Campus.
Prochain arrêt dans ton campus.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h, vous écoutez Fréquence Banane et c'est l'heure de l'émission Dans ton campus, une émission qu'on essaye péniblement de faire revivre les lundis soirs et qui s'intéresse à l'actualité étudiante. Mais ce soir, on va pas rester dans le campus, vous allez voir, on va sortir un peu des murs de l'université pour voyager dans le monde et même dans l'univers. Et oui, au sommaire de cette émission ce soir, une grande question existentielle, sommes-nous seuls dans l'univers? Emeline Beaumont, du Centre pour la vie dans l'univers de l'UNIGE, que j'ai interviewé la semaine dernière, tentera d'apporter des réponses à cette grande question. On l'écoutera dans un instant. Ce soir aussi, l'association du monde arabe de l'Université de Genève. On reçoit deux membres du comité qui nous présenteront l'association. Ils sont déjà là dans le studio. Bonjour.
Bonjour.
Et ils seront interviewés par Rabab, qui est là également. Salut Rabab.
Bonsoir.
Et puis en fin d'émission, une petite chronique de notre superbe chroniqueur à la plume aiguisée, Lucien.
Bonsoir.
Lucien qui est là. Comment tu vas?
Fort bien. Journée fatigante, vous verrez.
Alors, tes chroniques de la dernière émission étaient très fortes, chargées d'émotions, un petit peu politiques aussi. Est-ce que tu continues dans la même veine ce soir? De quoi tu nous parleras?
Oui, on ne va pas tellement s'éloigner, on va rester cette fois-ci dans le monde du travail.
D'accord.
En ce 1er mai.
En ce 1er mai, effectivement, une chronique d'actualité. Donc, en tout cas, on a un très beau programme et on commencera donc par cette grande question de la vie dans l'univers. On va écouter l'interview avec Emeline Beaumont, directrice du Centre de recherche pour la vie dans l'univers de l'Université de Genève. Un entretien enregistré ici même il y a quelques jours. Restez avec nous, ça arrive très très vite, juste après, une petite musique pour commencer, la Swedish House Mafia avec Heaven Takes You Home. On a le plaisir d'accueillir Emeline Beaumont, directrice du Centre pour la vie dans l'univers de l'Université de Genève, le CVU. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue.
Eh ben, merci de m'avoir invitée.
Alors, pour être tout à fait honnête, moi, je ne savais pas du tout qu'il existait un centre pour la vie dans l'univers à l'UNIGE. J'ai découvert ça il y a quelques jours en voyant des affiches pour votre nouvelle exposition. Votre exposition « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» c'est le titre de l'expo. Elle sera proposée en mai sur le Quai Wilson à Genève. Et je me suis dit du coup que c'était l'occasion de vous inviter sur nos ondes pour parler de cette expo, bien sûr, mais aussi de vos recherches en général et peut-être un peu également de l'avancée de la science sur cette question existentielle « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Mais avant de répondre à cette grande question, on commence avec une question peut-être un peu plus facile. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la création de ce Centre pour la vie dans l'univers? Depuis quand ça existe et pourquoi est-ce que ça a été créé?
Alors c'était une très bonne question. En fait, on existe depuis pas très très longtemps, peut-être à peu près 2 ans maintenant. Et tout a commencé en fait en 2019, quand le prix Nobel de physique a été attribué à Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte de la première planète extrasolaire, donc une planète qui orbite une autre étoile que notre Soleil. Et cette découverte a été faite en 95 et elle a été récompensée par le prix Nobel en 2019. Et donc à cette occasion, l'université a voulu essayer de bâtir de nouvelles initiatives à partir de cette excellente nouvelle pour l'université. Et donc l'une d'entre elles est ce fameux Centre pour la vie dans l'univers. Et en fait, ce centre, il vient donc, la première planète a été détectée en 1995. Après, on a eu toute une grande époque de découverte de planètes, où on en a découvert vraiment beaucoup, donc maintenant on en est à plus de 5000. Ensuite, une fois qu'on les a découvertes, on a voulu en savoir plus sur ces planètes, et ce qu'on appelle caractériser les planètes, donc savoir de quoi elles sont faites. Et pour savoir de quoi elles sont faites, il nous faut au minimum la masse et le rayon des planètes. Et donc, on est ensuite, après cette ère de découverte, on est rentré dans une ère de caractérisation, essayer de savoir de quoi les planètes sont faites. Et aujourd'hui, on est dans une ère de caractérisation des atmosphères des planètes, donc essayer de savoir de quoi les planètes sont faites. Et si vous voulez, si on suit l'évolution naturelle du domaine, après la caractérisation des atmosphères, la question qui nous vient, c'est est-ce qu'on peut détecter la vie ? Et donc, on s'est dit, le futur du domaine des exoplanètes, qui est né à Genève, c'est essayer de découvrir la vie. Et on est fort de tout un historique aussi d'instrumentation pour découvrir les planètes, pour les caractériser. Et donc, on pense qu'on est très bien placé pour essayer de répondre à cette question. Et donc, ce centre a été créé pour essayer d'apporter des bribes de réponses à cette fameuse question.
Et c'est un centre qui est interdisciplinaire, à la croisée de l'astronomie, de la physique, comme vous l'écrivez sur votre site. Donc, j'imagine que tous les chercheurs ont des backgrounds très différents pour étudier cette question de la vie dans l'univers, mais ça reste toujours des sciences dures. Vous n'avez pas d'experts en philosophie, en théologie ou ce genre de choses.
Alors non, parce qu'il a été créé comme un centre facultaire au sein de la faculté des sciences. Mais bien évidemment, notre objectif, ce serait un jour d'ouvrir la question justement à ces disciplines-là, en particulier la philosophie. Ce serait vraiment très intéressant, parce que je pense qu'il y a plein de répercussions sociétales aussi hein, pour cette question. Donc là, c'est vrai que le centre actuellement, on est très, on se concentre sur la science, mais on a quand même un de nos membres, Andreas Müller, qui fait de la pédagogie des sciences. Donc en fait, un des objectifs aussi de notre centre, c'est d'essayer de créer des liens avec les écoles pour essayer de voir comment on peut enseigner cette question. Comment on essaie de répondre à cette question d'un point de vue scientifique. On pense que ça peut être intéressant aussi de parler de ça dans les écoles avec un programme pédagogique adapté.
Et alors vous, qui êtes directrice de ce centre, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours, votre background ?
Oui, avec plaisir. Donc je suis française. J'ai fait pas mal de mes études en France, donc des études universitaires. Ensuite, donc j'ai fait des études de physique, globalement assez physique assez générale. J'ai fait de l'astronomie avec quelques cours par-ci par-là. Ensuite, je suis allée faire une thèse en astrophysique à l'université de Bordeaux. Avec Franck Celsis et Sean Raymond. Et j'ai travaillé sur l'évolution et l'habitabilité de planètes autour de toutes petites étoiles.
D'accord.
Ensuite, je suis partie, j'ai fait deux post-doctorats. Donc après la thèse, on fait ces petits contrats durée déterminée dans d'autres instituts. Donc j'en ai fait un à l'université de Namur en Belgique. Et ensuite, je suis allée au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, autrement dit CEA, sur le plateau de Saclay, donc c'est dans la région parisienne. Et ensuite, j'ai intégré l'Université de Genève en tant que professeure assistante, en 2018, fin 2018.
Et alors actuellement, au CVU, vous travaillez donc sur la recherche de la vie extraterrestre, vous l'avez dit, un domaine qui est assez passionnant, rien que le nom, c'est assez fou. Centre de recherche pour la vie dans l'univers, je pense que c'est pas tout le monde qui se lève le matin pour aller détecter la vie dans l'univers. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, où est-ce que vous cherchez ces formes de vie ? Est-ce que ça peut être sur les planètes voisines de notre système solaire ou est-ce que c'est vraiment des formes de vie sur des exoplanètes qui sont beaucoup plus lointaines ?
Alors, en fait, c'est une très bonne question. La réalité, c'est que le domaine, hein, enfin, je veux dire, je ne parle pas de moi, là, en l'occurrence, mais on essaie de trouver de la vie dans le système solaire. Donc, c'est toutes les études qui sont faites, par exemple, sur Mars, avec, par exemple, en ce moment, le rover Perseverance qui fait des échantillons du sous-sol. Enfin, du proche sous-sol martien. Il y a aussi des missions qui vont aller vers des satellites de géantes. Et là, en fait, ces satellites, on sait qu'il y a un océan d'eau liquide sous une croûte de glace. Et donc, en fait, tous ces objets-là, au niveau du système solaire, ils ont des intérêts exobiologiques marqués. Donc ça, c'est un des pans de cette recherche. Et l'autre pan, eh ben, c'est est-ce qu'on peut essayer de trouver de la vie dans les atmosphères des exoplanètes ? Et donc, par exemple, l'Observatoire de Genève, mais aussi au niveau suisse avec le consortium Planetes, on va un petit peu aussi dans cette direction. Mais je voulais juste dire un truc, c'est que, OK, on parle de la recherche de la vie, mais en fait, c'est une question qui est hyper complexe. Et pour pouvoir trouver la vie, il faut aussi qu'on comprenne les habitats qui ne sont pas habitables. Donc les planètes qui sont trop chaudes, les planètes qui sont trop froides. Il faut vraiment qu'on ait une vue très globale des systèmes planétaires, des planètes au sein de leur système, pour pouvoir éventuellement un jour réussir à dire « Ah bah il y a de la vie sur cette exoplanète par exemple ».
Alors justement, est-ce qu'il y a des conditions à l'apparition de la vie, des conditions universelles qui doivent être réunies sur une planète pour que la vie ait une chance de se développer ?
Alors ça, c'est un sujet de recherche, on va dire, actuel. Mais il y a quand même quelques conditions sur lesquelles on est tous d'accord. La première, c'est la présence d'eau liquide. Parce qu'on pense que l'eau liquide, alors bon, elle est nécessaire pour la vie telle qu'on la connaît, mais aussi on pense qu'elle est nécessaire pour l'apparition de la vie. Et donc c'est pour ça que pour le domaine des exoplanètes, par exemple, on parle de la zone habitable, cette fameuse zone habitable dont on parle souvent. C'est juste une façon pour nous d'essayer d'estimer si une planète peut potentiellement avoir de l'eau liquide à sa surface. Et le principe est assez simple, hein. Si une planète est très proche de son étoile, elle va être trop chaude. Si elle est trop loin de son étoile, elle est trop froide. Et donc il y a une zone intermédiaire où, si vous avez une atmosphère correcte, vous pouvez avoir de l'eau liquide à la surface. Donc c'est pour ça qu'on cherche des planètes dans cette fameuse zone habitable, parce qu'on pense que l'eau liquide est un ingrédient essentiel. Et c'est pas forcément facile de trouver de l'eau liquide, en fait. Il y a de l'eau partout, si vous voulez, dans l'espace, mais c'est sous forme de vapeur, c'est sous forme de glace. Mais de l'eau liquide, c'est pas facile à trouver. Et donc, par exemple, les satellites autour des géantes gazeuses, par exemple Europe, Ganymède ou Encelade autour de Saturne, pourquoi ils sont intéressants ? Parce qu'on sait qu'il y a cet océan d'eau liquide. Alors après, il n'est pas accessible dans le sens où il est caché sous une couche de glace, mais c'est pour ça qu'on est très intéressé par ces satellites-là dans le système solaire, parce qu'on sait qu'il y a de l'eau liquide.
Et par rapport aux exoplanètes qui sont donc hors du système solaire, comment c'est possible de déterminer s'il y a de la vie sur ces objets célestes qui sont si loin ? Est-ce que la technologie d'aujourd'hui permet vraiment d'avoir des réponses ?
Alors, pour dire qu'il y a de la vie, on n'y est pas encore. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais comme je disais dans l'introduction, c'est qu'on commence à rentrer dans une ère où on peut caractériser les atmosphères. Donc on peut dire, par exemple, dans cette planète, il y a du CO2. Dans l'atmosphère de cette planète, il y a de l'oxygène. Et donc on arrive comme ça à sonder des atmosphères de planètes, donc de petites planètes rocheuses, qui sont, soit dans la zone habitable, soit pas trop loin. Et là, c'est toute la difficulté, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on détecte dans ces atmosphères pour dire qu'il y a la vie. Et ça, on ne sait pas encore.
Et vous pensez que si on découvre des formes de vie extraterrestres, ce serait plutôt des formes très primitives ou basiques, ou est-ce que ça pourrait aussi être des formes de vie plus avancées ? Je ne sais pas si on est déjà capable, avec l'avancée de la recherche, de répondre à cette question, mais qu'est-ce que vous pensez ?
Alors, en fait, nous, quand on essaie, entre guillemets, de chercher la vie dans les atmosphères des exoplanètes, on fait déjà une hypothèse assez forte que c'est une vie qui est déjà suffisamment évoluée pour avoir impacté la chimie de son atmosphère. Donc, par exemple, sur Terre, on sait que la vie, en particulier des bactéries qui s'appellent les cyanobactéries, ont inventé la photosynthèse, et cette photosynthèse a permis à l'oxygène de s'accumuler dans l'atmosphère de la Terre. Donc pour la Terre, par exemple, l'oxygène est ce qu'on appelle une biosignature, c'est une signature qui a de la vie. Mais pour les exoplanètes, la présence d'oxygène ne veut pas forcément dire qu'il y a de la vie, parce que c'est des environnements très 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 différents. Donc c'est là aussi toute la difficulté du domaine, c'est essayer de deviner qu'est-ce que pourraient être ces signatures.
Il y a une théorie que je trouve assez intéressante qui postule que s'il y a des formes de vie plus avancées dans l'univers, elles auraient déjà cherché à nous contacter, elles auraient déjà trouvé le moyen de le faire. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de vie plus avancée que nous dans l'univers ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors là, on part un petit peu dans la science-fiction, on est d'accord ?
Ouais, c'est ça.
On va dire que... C'est une question qui touche à vraiment beaucoup de choses. Parce que, par exemple, on pourrait se dire, les étoiles celles qui vivent le plus longtemps, c'est des toutes petites étoiles. Donc, c'est des étoiles beaucoup moins massives que le Soleil. Et donc, on pourrait se dire, une civilisation qui est apparue sur une planète autour d'une petite étoile, elle aurait peut-être eu énormément de temps pour se développer, pour arriver à un stade technologique hyper avancé et qui puisse effectivement nous contacter un jour. Mais le truc, c'est que la vie autour de ces petites étoiles est très compliquée, parce que les étoiles sont hyper actives. Et on pense que ça peut être des environnements assez durs pour la vie. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez... Par exemple, construire des molécules qui sont peut-être des briques de ce qui pourrait être un jour de la vie, mais en fait, vous avez un rayonnement, par exemple, ultraviolet qui va les détruire. Donc ça paraît très difficile. Mais après, imaginons que c'est possible. On parle quand même de distance astronomique entre les systèmes planétaires. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait s'y être pris déjà... très en avance, envoyer des signaux très 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 forts, hein, d'une certaine manière, pour qu'on puisse éventuellement nous les entendre ou
les
détecter, voilà. Donc ça, enfin, moi je trouve pas ça hyper étonnant non plus, on va dire, parce que il y a aussi tellement de choses qui peuvent mal se passer dans le développement d'une civilisation, qui peuvent aussi tout arrêter et on n'arriverait jamais à ce stade où on a la technologie suffisante pour aller voyager dans l'univers, quoi. Mmh.
C'est des questions passionnantes, on pourrait en parler pendant longtemps, mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir approfondir un peu le sujet avec cette exposition. On va revenir sur Terre justement pour la fin de cette interview et plus précisément sur le Quai Wilson de Genève où on pourra découvrir cette expo. Donc il y aura une série de posters, d'affiches. De quoi est-ce qu'ils parlent exactement ces posters ? Quelles thématiques seront abordées ?
Alors en fait, ça touche un peu toutes les disciplines qui sont importantes pour essayer de répondre à cette question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?». Donc en fait, l'exposition, donc, elle sera donc entre Bain des Paquis et le parc de la Perle du Lac. Et on conseille souvent de la prendre dans le sens-là. Donc commencer Bain des Paquis, on commence par les grandes échelles de l'univers. Donc on voit, les galaxies qui étaient dans l'univers il y a très 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 longtemps. Et on a plein partout. Et en fait, petit à petit, on va aller vers des échelles de plus en plus petites, à l'échelle des systèmes planétaires. Et donc, qu'est-ce que le domaine des exoplanètes, où est-ce qu'on en est ? Donc, comme je vous ai dit, la découverte, mais aussi maintenant la caractérisation des atmosphères. Mmh. Après, on a aussi tout un aspect climat, parce que pour évaluer l'habitabilité d'une planète, il faut comprendre comment le climat fonctionne, pour voir si on peut avoir de l'eau liquide à la surface, justement. Et puis après, on parle aussi de l'origine de la vie un peu sur Terre. Donc, quelles étaient les conditions sur la Terre primitive ? Qu'est-ce qu'on sait de ces conditions ? Parce qu'il y a encore énormément de points d'interrogation sur les premiers milliards d'années, le premier milliard d'années de la Terre. Et on transitionne comme ça vers... je vous ai parlé des cyanobactéries qui avaient inventé la photosynthèse. On en parle aussi lors de cette exposition. Et puis, on essaie aussi au niveau des climats et aussi au niveau de ces cyanobactéries, on essaie aussi de faire des liens avec notre actualité, entre guillemets, donc tout ce qui est réchauffement climatique et l'atrophisation des lacs en Suisse, où on sait que ces cyanobactéries en profitent et que ça pose des problèmes de santé pour nous ou les chiens qui vont nager dans les lacs ou les canards qui nagent dans les lacs. Donc on a essayé de faire un petit peu un paysage très très vaste de la question, et puis avec toutes les implications aussi que ça peut avoir pour des choses aussi un petit peu plus terre à terre, quoi.
Ouais, des liens avec des thématiques plus actuelles.
Exactement.
Il y aura une visite guidée de cette expo également. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les infos ? Ça aura lieu quand ?
Alors c'est le 15 mai à 18h. Ça commencera justement au premier poster de l'exposition côté Bain des Paquis, donc côté grandes échelles astronomiques. Et donc l'idée, c'est de faire ensemble un bout de cette exposition. Donc on va pas faire tous les posters, ça prendrait trop de temps, mais on va en sélectionner quelques-uns. Et il y aura des représentants du Centre pour la vie de l'univers de toutes les disciplines. Donc par exemple, moi je représenterai l'astronomie, mais j'aurai mes collègues qui seront là pour expliquer à la fois la physique du climat, mais aussi le volcanisme sur la Terre primitive, et puis aussi tout ce qui est biologie, qu'est-ce que la vie, etc. Et donc ça va nous prendre peut-être 30-40 minutes. Et puis après, l'idée, c'est d'aller tous ensemble au musée d'histoire naturelle, qui est dans le parc de la Perle du Lac, un petit peu plus loin. Et là, on aura à disposition des rochers volcaniques pour un petit peu... voir de façon concrète de quoi on aura parlé un peu au niveau des posters, et puis aussi on aura quelques cyanobactéries que les gens pourront regarder, et voilà, des trucs assez sympas, une petite expérience sur l'effet de serre aussi, des choses comme ça.
Okay.
Donc et cette deuxième partie au musée sera l'occasion vraiment vous pourrez profiter pour assouvir votre curiosité sur tous ces sujets, et donc on restera là pour discuter avec le public autour d'un petit verre, et puis de quoi manger.
Toujours sympa.
Exact.
J'imagine que c'est une expo qui se veut assez accessible, grand public, etc. On peut venir, même si on n'y connaît rien, aux exoplanètes, aux cyanobactéries.
Voilà, donc normalement, on a essayé de faire que ce soit accessible à tout le monde. On a essayé de faire avec le plus de pédagogie possible.
Est-ce que c'est compliqué pour vous de vulgariser des sujets comme ça et de les rendre accessibles au grand public ?
Oui, c'est compliqué parce que en fait, je veux dire, on pourrait vulgariser tout, mais il nous faudrait plus de 60 posters probablement. Et souvent, il y a certains posters qui reprennent des notions d'autres posters aussi. Donc, c'est ça aussi qu'il faudrait essayer de faire l'exposition dans son ensemble. Mais voilà, le plus qu'on pouvait, on a essayé d'être le plus clair possible et on espère que notre effort sera récompensé d'une certaine manière.
Emeline Maumont, pour terminer, retour sur la grande question de votre vie, la vie extraterrestre. Est-ce qu'un jour vous pensez que vous pourrez nous proposer une expo où vous apportez la réponse définitive à la question ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Est-ce que c'est pour bientôt ?
Alors, je pense pas que ce sera moi. Donc on revient un petit peu à un moment, je vous ai dit, on cherche dans le système solaire et on cherche pour les exoplanètes. Pour les exoplanètes, honnêtement, je pense qu'on n'y est pas encore du tout. Moi, je dis toujours que j'espère que pendant ma vie, on y arrivera.
Est-ce que c'est pas un peu décourageant quelque part de se dire que ça prend autant de temps et que c'est aussi complexe ?
Non, parce qu'on a quand même l'impression de faire partie d'une grande histoire. Et puis bon, même si c'est pas nous qui découvrons ça au final, on sera quand même content si un jour c'est découvert.
Et puis, ça avance petit à petit. Même si c'est lent, ça avance.
Exact, ouais. Et la question est tellement complexe, il y a tellement de choses à faire. C'est un peu un univers à découvrir, entre guillemets, ce qui est vrai, littéralement. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choses à découvrir, à comprendre. On a du boulot pour toute notre vie, donc ce qui est quand même chouette. Mais pour répondre à votre question, je pense que pour le système solaire, probablement ça va arriver plus vite que pour les exoplanètes. Parce que là, je vous disais, en ce moment, il y a Perseverance qui est à la surface de Mars, un rover à la surface de Mars, qui est en train de récolter des échantillons, et ces échantillons seront ramenés sur Terre à l'échelle de, je ne sais plus, peut-être 10, 15, 20 ans, dans ces eaux-là. Et on pourrait tout à fait trouver de la vie dans un de ces échantillons, on ne sait pas. Et donc là, si vous voulez, on a une échéance vachement plus tangible que pour les exoplanètes, où on a encore énormément de challenges à résoudre avant de pouvoir répondre à cette question. Mmh. Donc je pense que si un jour ça vient, en premier, ça devrait venir du système solaire.
Dernière question, est-ce que vous pensez que l'homme ira sur Mars ces prochaines années ?
Alors ça, c'est une question épineuse, on va dire. Parce que, voilà, ce qui m'embête un petit peu avec toutes ces histoires, c'est que nous, on essaie de détecter la vie sur Mars, quoi. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui y vont, il y a un vrai risque de contamination. Mmh. Et une fois que la planète est contaminée, on pourra jamais savoir si ce qu'on détecte à la surface de Mars, c'est nous qui l'avons apporté ou si c'était là avant.
S'il y avait de la vie à la base. Voilà. Ouais.
Donc il faudrait faire, si un jour c'est le cas et qu'on n'a pas encore tout résolu, les grandes questions ouvertes sur Mars, il faudrait très faire très attention. Mais ouais, j'espère que, enfin, je veux dire, l'espèce humaine a toujours été exploratrice, hein, ça, on ne pourra pas le changer. Mais il faudrait être sûr qu'il n'y a rien d'intéressant sur Mars avant d'y aller mettre le bazar, quoi. Mm-hmm.
Bon, en tout cas, on va suivre avec beaucoup d'intérêt la suite de toutes ces recherches, de vos recherches, le développement du Centre pour la vie dans l'univers également. On sait que Genève, c'est une terre de prix Nobel, vous l'avez dit, on a découvert des grandes choses ici par le passé, donc peut-être qu'on vivra de nouvelles grandes découvertes à l'avenir du côté de l'Observatoire de Sauvigny où vous travaillez. Dans un avenir plus proche, il y a cette expo qui aura lieu, on le rappelle, du 2 au 31 mai sur le Quai Wilson, c'est gratuit. Et puis le 15 mai, rendez-vous pour la visite guidée. Est-ce que j'ai tout dit ou est-ce qu'il y a des choses à rajouter ?
Je peux rajouter un truc. Ouais.
Allez-y.
C'est qu'en fait, l'Observatoire de Sauvigny fera des portes ouvertes comme l'année dernière. Et donc, cette année, ce sera le 17 et 18 juin. Donc, c'est un week-end. Et donc, il y aura plein d'activités pour les enfants, mais aussi pour les adultes, avec des conférences, des jeux. Et donc, plein de choses à découvrir. Pour l'observatoire. Donc là, il n'y a pas que la recherche de la vie, hein. Il y a tous les domaines de l'astrophysique qui sont représentés, les étoiles, l'univers, l'univers extrême. Vous êtes aussi tous les bienvenus à venir découvrir l'observatoire de Genève. Donc c'est les 17 et 18 juin.
Voilà, donc l'exposition et les portes ouvertes de l'Observatoire. Beaucoup d'actualités là à venir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de venir nous voir, Emeline Beaumont. C'était vraiment intéressant. Bonne suite de semaine et peut-être à bientôt.
Merci, au revoir.
Voilà, c'était 77 Bombay Street avec Fox. On est de retour dans l'émission Dans ton campus. Tout à l'heure, vous avez entendu Emeline Beaumont qui nous a parlé de l'exposition Sommes-nous seuls dans l'univers. Et vous savez quoi, ça tombe bien parce que cette expo commence demain, le 2 mai. Donc rendez-vous sur le Quai Wilson dès demain. Mais en attendant, on continue cette émission. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous écoutez ce soir le 50e épisode de Dans ton campus. Et oui, 50 épisodes, rien que ça. Franchement, ça fait tourner la tête, non, Lucien ?
Ouais. Moi, j'en peux plus, perso.
Alors que toi, t'es là depuis 2 épisodes, c'est ça ?
Pas plus.
Bon, en tout cas, on souhaite un très, très joyeux anniversaire à Dans ton campus. Pour le coup, on a prévu une petite musique sympathique. Alors pour cet épisode anniversaire, on aimerait faire une grosse dédicace à toutes celles et ceux qui nous ont précédés à l'animation de cette émission, notamment Jennifer Leproudour, Mathilde Salamin, Baptiste Leduc et bien d'autres qui se reconnaîtront. Voilà, c'est l'instant dédicace ce soir, il fallait bien marquer le coup. Et vous savez quoi ? J'ai un autre très gros scoop pour vous. Un très très gros scoop. On s'est rendu compte tout à l'heure que lors du tout premier épisode de Dans ton campus en 2018, on avait parlé d'un concert. Un concert de musique organisé par, tenez-vous bien, l'Association du monde arabe de l'Université de Genève, l'AMAJ. Et ils sont là ce soir pour le 50e épisode. La boucle est bouclée. C'est énorme. C'était pas fait exprès, je crois, à moins que Rabab ait tout prévu. Rabab, c'était prévu ?
Non, je c'était pas aussi poussé.
Bon, en tout cas, le hasard fait bien les choses. Rabab, je te laisse la parole avec tes deux invités. Je crois que tu voulais d'abord nous proposer une musique ou est-ce qu'on y va tout de suite avec l'interview ?
Alors, je vais d'abord donc présenter mes invités. Après, vas-y, on y va avec donc la musique. Donc aujourd'hui, on a avec nous l'association LAMAJ, l'association du monde arabe de l'Université de Genève. On a avec nous Lina, la trésorière. Bonjour Lina.
Bonjour.
Et Yanis, le vice-président. Bonjour Yanis.
Bonsoir.
Alors, j'aimerais juste que vous vous expliquiez en quelques mots, par vos mots, quel est donc... C'est quoi l'Association du monde arabe de l'Université de Genève ? Et après, tout de suite, on va passer avec la première chanson.
D'accord. Donc l'Association du monde arabe de l'Université de Genève, elle a pour but de déconstruire des clichés orientalistes sur le monde arabe. Nous avons envie de faire découvrir les cultures, l'histoire, les enjeux de ces pays. On a été attristés du fait que la plupart du temps, lorsque d'autres associations... où groupe parle de cette région, en fait, on reste focalisé sur l'aspect sécuritaire, militaire, voire le terrorisme. Et nous, on voulait rapporter cet aspect humain à cette région et rappeler à tout le monde qu'il existe une culture, qu'il existe de la musique, de la gastronomie, du tourisme, etc.
Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, en parlant de culture, aujourd'hui, on a la chanson soudanaise. Alors, j'ai plus le titre sous les yeux. Shukrallah Ezzeddin Allah Belli.
Voilà, je pense que tu voilà. Dis bien mieux que moi. On écoute ça et on revient dans un petit instant. Allela Bellel
Nemchi Shara Nil Gawa Bemazak. Donc voilà, c'était Shukrallah Ezzeddin Allela Bellela, une chanson très tendance en ce moment sur TikTok. Alors, on revient avec LAMAJ. Donc, on a avec nous, comme on a dit précédemment, Lina et Yanis de LAMAJ. Alors, je voulais vous poser la première question, c'était comment sont choisies les activités de LAMAJ ?
Donc, nos activités sont choisies par le comité. On se réunit, on essaie de se réunir au moins une fois par semaine ou à chaque 2 semaines et on discute des différentes idées qu'on a et on est ouvert aussi aux idées de nos membres, donc s'ils veulent faire quelque chose de spécifique, on est ouvert à le réaliser, bien sûr.
Alors, comment on rejoint LAMAJ ? À qui s'adressent en fait finalement les événements de LAMAJ ?
Les événements de LAMAJ s'adressent à tout étudiant de l'Université de Genève, vraiment on est... On essaie d'être le plus inclusif possible. Ce n'est pas réservé seulement aux étudiants arabes et on veut vraiment mettre l'accent sur cet aspect. Et pour rejoindre LAMAJ, c'est aussi simple de nous envoyer un message. On vous fait rentrer dans notre groupe WhatsApp, payer votre cotisation de 10 francs et voilà.
Je voulais savoir, donc vous avez dit que vous discutez les activités entre vous. Quel genre d'activités, par exemple, vous discutez quel genre d'activités sont possibles et envisageables? Et par exemple, quel genre d'activités vous avez dit « Ah là, ça on peut pas, c'est un peu compliqué ».
Lorsqu'on veut faire des conférences et la plupart des gens qu'on veut inviter se trouvent pas sur le continent européen, mm-hmm. et qu'on doit penser à comment faire pour ramener cette personne mm-hmm. à Genève, donc c'est plus à ce moment-là qu'on se dit là c'est compliqué, sinon pour le reste c'est de l'organisation, c'est mm-hmm. tout.
Donc parfois la MAJ peut faire face à des difficultés peut-être financières.
Difficultés financières, je dis ça va, puisque l'association des étudiants, la CUAE, je pense, mm-hmm. oui, eux, ils nous soutiennent énormément et c'est grâce à eux qu'on mm-hmm. réalise tous les projets qu'on fait. C'est juste qu'on essaie d'être réaliste aussi.
Oui, donc c'est difficile de faire venir quelqu'un de l'autre bout un peu du monde.
C'est possible, mais énormément d'organisation, mais oui.
D'accord.
Oui, c'est plutôt un souci logistique.
Logistique, oui.
Du fait que ce sont des personnes souvent avec des emplois du temps chargés. Mm-hmm. Alors prendre un avion et passer 2-3 jours à Genève pour une conférence, c'est peut-être compliqué aussi pour eux.
Mm-hmm. D'accord. Alors, sur le site, j'ai vu plusieurs activités, pardon, sur le site, sur l'Instagram de la MAJ, j'ai vu plusieurs activités comme... des activités sur des graphistes, une Arabic Pop Party, des activités autour de films, des partages de plateformes sur, au sujet des femmes dans le monde arabe et des activités aussi sur la résistance des femmes dans le monde arabe. Et aussi une fondue au bain des Bakis. Est-ce que c'est très arabe ça?
Les Arabes adorent le fromage.
Tout le monde adore le fromage.
D'ailleurs, alors, on a une bonne culture de fromage dans le monde arabe.
On a aussi une bonne culture de fromage, oui. On peut penser au Raqqa, oui, par exemple, qui est très bon, qui vient de la ville de Raqqa, en Palestine.
Ok. Alors, ça, c'est différentes sortes d'activités que propose la MAJ. Et puis, donc, j'ai participé récemment à une activité qui s'appelait, enfin, une conférence qui s'appelait « C'est hummus et pas hummus ». Et c'était une conférence qui parlait beaucoup de l'appropriation culturelle dans la Palestine. Ce jour-là, donc, une des personnes de la MAJ a expliqué que c'était une association, que la MAJ était une association apolitique. On a un petit peu parlé quand même pendant cette conférence sur des faits historiques, sur le conflit israélo-palestinien. Et j'ai trouvé aussi d'autres conférences assez politiques, comme une conférence sur la guerre du Liban ou sur la guerre du Yémen. Je voulais savoir l'apolitisme. Donc, j'ai cherché l'apolitisme sur le Larousse. Je vais rappeler la définition de l'apolitisme, c'est qui se place en dehors de la politique, qui ne s'occupe pas de politique. Donc, comment se place la MAJ par rapport à cette définition? En fait, où se situe la frontière et quelle est la conception et comment est appliqué l'apolitisme à la MAJ? Pardon.
D'accord. Donc, nous, l'apolitisme, on le comprend comme aussi être apartisan, c'est-à-dire ne pas prendre parti. Mmh. Nous sommes une association étudiante et on reste éveillé aux enjeux humanitaires dans la région. Mmh. Et de ce fait, on suit plusieurs ONG internationales, comme par exemple Amnesty International, Human Rights Watch, ce qui nous permet de rester éveillés et actifs sur ces questions humanitaires. Mmh. Ensuite, les événements qui ont été nommés, du coup, on s'est concentré plutôt sur rapporter un aspect historique à cette question, mmh. ou alors un aspect humanitaire, notamment sur, mmh. notre conférence sur la situation au Yémen. Mmh. On s'est plutôt basé sur comment les ONG au Yémen peuvent fonctionner. Et on avait d'ailleurs ramené une personne de l'association Y30, qui est une association yéménite qui a pour but d'aider les yéménites à développer une agriculture, car aujourd'hui le Yémen fait face à la plus grande famine de l'histoire, mm-hmm. avec 13 millions de personnes affectées. Mm-hmm. Ensuite, on avait aussi ramené quelqu'un de Médecins Sans Frontières, mm-hmm. qui était le responsable au Yémen sur... surtout dans la ville de Sana'a, la capitale. Mmh. Donc, on s'est vraiment concentré sur cet aspect cet aspect humanitaire. Mmh. Et sur notre conférence sur l'appropriation culturelle dans la cuisine palestinienne, que Lina va mieux expliquer, on s'est aussi focalisé sur cet aspect culturel et non politique. Et c'est comme ça qu'on arrive à être apolitique, mmh, tout en abordant des sujets délicats.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce que Lina, tu peux nous expliquer un peu donc, la conférence sur l'appropriation culturelle?
Oui, donc, comme je disais aux gens, ce projet est né d'une note vocale au pied de ma porte d'entrée. Et c'était un projet qui nous tenait énormément à cœur, car c'est un sujet qu'on n'aborde pas énormément, mais qui est original et intéressant. Et pour nous, c'était une façon d'aborder un enjeu culturel. Donc, on est une association culturelle. Donc, parler d'enjeux culturels dans la région est important. Donc, c'est pour cela qu'on a tenu à réaliser cet événement. On est très satisfait et très content du résultat qu'on a obtenu. Et surtout, le fait d'avoir réussi à ramener deux chefs palestiniens, ça représentait énormément pour nous.
Oui, c'est vrai que la salle était extrêmement pleine et puis à la suite, donc il y avait un petit repas, il n'y avait plus assez à
oui,
manger.
Même on n'a pas eu à manger, nous.
Oui, donc, il y a Yanis, eu plus de monde que prévu.
Yanis, tu voulais intervenir sur...
Oui, et aussi du fait que nous sommes apolitiques et encore une fois qu'on se base sur des rapports d'ONG comme Amnesty ou Human Rights Watch, on est amené à parler notamment de ce qui se passe en Palestine, donc que ce soit culturel ou humanitaire, et c'est pour ça qu'on ne considère pas ce qui se passe en Palestine comme un conflit, mais plutôt comme une situation d'apartheid, comme ça a été rapporté par de nombreuses ONG.
D'accord. Donc, d'après ce que j'ai compris, donc... L'apolitisme, ça serait plutôt de pas vraiment prendre parti, mais d'expliquer plutôt les faits historiques et les situations comme elles sont dans le monde arabe.
Exactement, et de façon objective.
Oui, par exemple, lorsqu'on a fait notre conférence sur le Yémen, on n'a pas pris parti d'un parti spécifique dans le conflit, mais on a plutôt voulu représenter la population et ce à quoi fait face la population, et surtout les solutions qu'elle met en place pour pouvoir se sortir la tête de l'eau.
Et comme j'avais dit lorsque j'avais présenté l'association, on est une association qui veut montrer l'humain dans le monde arabe, qui ne veut pas uniquement montrer cet aspect militaire, etc. On veut montrer les initiatives des Arabes, quels qu'ils soient.
Ok, merci beaucoup. Donc j'ai une question aussi un peu clivante, un peu difficile. Donc j'ai vu dans l'Instagram de l'AMAJ, donc des petites news sur le monde arabe, et il y en a une qui m'a un peu tapé à l'œil. C'était une news qui parlait de la tombe d'un prêtre de plus de 4400 ans sur le site de Saqqara au Caire. Donc c'était une mission archéologique égyptienne, donc ça parlait donc de cette mission. Donc je voulais savoir sur comment l'AMAJ conçoit l'arabité, et est-ce que c'est compliqué de définir le monde arabe?
Alors, l'arabité, c'est une définition qui est évolutive et qui change en fonction des époques. Donc, certes, au moment de l'Égypte antique, on n'avait pas cette question d'arabité, elle est née après cette question. Mais aujourd'hui, on a une population en Égypte qui se considère arabe. Et en tant qu'association sur le monde arabe, on souhaite parler de l'histoire de ces peuples. Mmh. Aujourd'hui, en Égypte, on a notamment la communauté copte, la communauté nubienne qui existe toujours. Et ils font partie de ce monde et on souhaite les représenter tant bien, même si elles sont minoritaires. Mmh. Ensuite, nous, l'arabité... on n'a pas une définition qui est propre à l'association, mais en tant que vice-président, je la définirais plutôt comme un ensemble culturel, un ensemble linguistique. On parle cette langue commune, l'arabe, on regarde ce même cinéma, qu'il soit libanais, qu'il soit marocain, qu'il soit égyptien, algérien et autres. On écoute aussi des chanteurs d'Irak au Maroc, de la Syrie au Yémen, dans ces pays. Et c'est ça qui nous unit, c'est cet aspect culturel. Ensuite, être arabe, ce n'est pas une ethnie, c'est plutôt une identité. Et on peut choisir de l'être ou non en fonction de notre bagage culturel. C'est pour ça qu'on peut notamment faire la différence entre être arabe, arabisé et arabisant. personne arabisante, par exemple, ça serait une personne qui, en dehors du monde arabe, apprend l'arabe et a un attrait pour les cultures arabes. Et j'insiste sur les cultures arabes car il en existe plusieurs. Une personne arabisée, ce serait par exemple une personne amazir en Afrique du Nord, une personne nubienne en Égypte, ou une personne copte, ou une personne assyrienne, kurde, etc., qui parlerait l'arabe et qui fait partie de ce corps gigantesque qu'est le monde arabe. Et ensuite, une personne arabe, c'est une personne qui se revendique d'elle-même être arabe et qui a une origine de cette région.
Ok, donc je vais donner un exemple. Moi, je suis par exemple nubienne. Je me considère aussi comme arabe. Est-ce que je serais plutôt donc comme arabisée ou arabe, enfin, comment je peux me définir et comment, enfin...
Alors, comme j'avais dit, être arabe, ce n'est pas une ethnie, c'est une identité, et il est propre à chacun, lorsqu'on fait partie de cette région, de s'identifier ou non comme arabe. Moi, par exemple, en tant que personne kabyle d'Algérie, je ne m'identifie pas comme arabe, mais comme kabyle. Mais un kabyle arabisé, puisque je parle arabe, j'écoute cette musique arabe et je fais partie de ce corps géographique qui s'appelle le monde arabe. C'est une définition qui est vague et qui est propre à chacun. C'est une question identitaire après tout.
D'ailleurs, cette question identitaire nous renvoie à l'émission précédente où on a parlé des identités de meurtrières d'Amin Maalouf. Je vous renvoie à écouter l'émission précédente qui va certainement vous plaire si ces questions vous ont intéressé.
Que vous pouvez retrouver sur Spotify et d'autres plateformes également.
Merci Hugo. J'avais une dernière question, c'était quels sont les prochains événements de la MAJE? Est-ce que donc, vous voulez rajouter aussi un petit mot de la fin pour nos auditeurs?
Alors, je souhaiterais d'abord parler un petit peu des événements qu'on a pu faire cette année. Et ensuite, Lina présentera quels sont nos futurs projets et ambitions. Alors, cette année, ce fut une année riche. On a pu organiser une conférence qui avait eu beaucoup de succès, tout d'abord le rôle de cette ONG au Yémen, Y30, et aussi de Médecins Sans Frontières. On a réussi à organiser une soirée qui s'appelle la Arabic Pop Party avec des chansons qui viennent du Maroc à l'Irak, de la Syrie au Yémen, avec un DJ irakien, des danseurs syriens, algériens, etc. Et bien évidemment, des personnes qui ne font pas partie du monde arabe, qui sont venues par curiosité ou par attrait. Et encore une fois, on a réussi à faire une autre conférence à succès sur l'appropriation culturelle de la cuisine palestinienne. Et on est très fiers de tout ce qu'on a pu faire cette année. Et je souhaite féliciter encore une fois toute notre équipe qui nous écoute et ceux qui ne nous écoutent pas. Et merci à toutes les personnes qui ont assisté à nos événements. Maintenant, Lina.
Donc, l'année scolaire s'achève. Nos plus grands événements auront lieu l'année prochaine. Inch'Allah, comme on dit chez nous. On compte faire d'autres conférences. On n'a pas d'idée précise en ce moment, mais sinon on veut mettre en place des ateliers de calligraphie, être un peu plus actif sur Instagram par rapport à des nouvelles culturelles, ou même développer un aspect culturel comme des capsules de vidéos avec des recettes arabes. Donc on est en discussion.
Ok. Pour l'année prochaine, est-ce qu'on peut rappeler comment, du coup, rejoindre la MAJE?
Donc, pour rejoindre la MAJE, tout d'abord, il faudrait assister à l'Assemblée Générale. Mm-hmm. Et si vous ratez l'Assemblée Générale, ce n'est pas un souci. Juste nous envoyer un message, on va échanger et on procédera.
Un message sur Instagram, par exemple?
Instagram, c'est parfait.
Parfait. Donc... rejoignez la MAJE, envoyez un message sur Instagram si vous êtes en retard.
C'est quoi le nom du compte Instagram pour nos auditeurs et auditrices?
Alors, écrivez tout simplement AMAJE sur Instagram et vous nous trouverez.
Parfait.
Alors, aujourd'hui, j'ai choisi deux chansons soudanaises pour une raison simple. En ce moment, au Soudan, il y a une scission au sein de l'armée et il y a du coup ce qu'on appelle une guerre civile. Beaucoup de réfugiés vont se réfugier en Égypte, au Tchad, en Arabie Saoudite notamment. Et c'était pour se rappeler du Soudan, de sa culture. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur son conflit, vous pouvez aussi chercher par exemple sur Instagram sur le hashtag Keep Eyes on Sudan. Et puis, on a tout de suite la chanson de Jawahir, « Ala da'awatik yamma ». C'était Jawahir ala da'awatik yamma, une chanson soudanaise qui parle de la maman. Là, on est le 1er mai, donc c'est cette semaine, le 5 mai, c'est bien ça, où il y aura la fête des mères. Donc c'est une chanson soudanaise pour parler un peu de la fête des mères et de sortir un peu de cette guerre au Soudan. Je voulais remercier Lamage d'être venu aujourd'hui. Je voulais remercier Lina et Yanis qui sont déjà partis, qui étaient pressés d'être venus aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.
Merci à toi Rabat pour cette interview. On passe maintenant à la chronique de Lucien. Lucien qui attendait son tour. Lucien, c'est à toi la parole.
Et oui, bonsoir à tous. Aujourd'hui, en ce lundi 1er mai, j'ai décidé de faire un petit tour en ville pour aller m'intéresser à notre traditionnel cortège. Alors que chez nos voisins de France, les casseroles de la contestation résonnent de rage depuis des jours pour tenter enfin de provoquer une réaction auprès de leurs dirigeants dirigistes, la Suisse, et en ce qui nous concerne Genève, a vécu son traditionnel 1er mai, journée revendicative internationale des travailleuses et des travailleurs. On a jugé avec le temps que la formule était plus glorieuse que fête du travail. L'occasion pour les syndicalistes de se réunir en un cortège et de scander leurs positions, celles qui doivent représenter les intérêts des travailleuses et travailleurs. Ce matin même d'ailleurs, la RTS, vous l'avez peut-être vu, proposait un flash info sur son compte Instagram, soulevant les derniers chiffres de l'ONG Oxfam concernant l'évolution des inégalités à l'échelle globale. Même s'il est dit que la Suisse ne figure pas parmi les chiffres les plus aberrants, comme ça peut être le cas aux États-Unis ou en Inde, le 1% des plus riches s'enfile tout de même 10% du revenu total. Quant au salaire réel, c'est-à-dire ajusté à l'inflation qu'on peut comprendre comme coût de la vie, niveau des prix, ils auraient en moyenne diminué de 2% en Suisse en 2022. Ça paraît pas grand-chose, mais en sachant que l'armée ponctionne 3% du salaire annuel des réformés, c'est pas négligeable. De l'autre côté, on recense plus de 44 milliards empochés par les actionnaires suisses l'an passé. À titre de comparaison, c'est plus de la moitié des recettes annuelles de la Confédération estimées pour 2023. La stagnation des salaires, donc, est un sujet emblématique de la Suisse et de sa culture du travail. Dans les temps difficiles de l'entre-deux-guerres, le pays avait connu des troubles comme il n'y en a plus eu depuis. Une grève générale déclarée par le comité Dalton au début des années 30, l'armée est mobilisée, et puis le retour à l'ordre car les temps n'étaient pas sereins pour des troubles internes. À la suite de cela, les syndicats et les patrons se sont retrouvés autour d'un accord symbolique que l'on a aujourd'hui mystifié, que l'on nomme la paix du travail. Ainsi, des conditions de travail correctes ont été acquises définitivement, contre une modération des revendications salariales, entendre l'abandon de la lutte ouvrière par le recours au piquet de grève. Depuis le temps a passé, les ouvriers comme les patrons ne sont plus les mêmes. Selon certains observateurs de l'histoire, on peut qualifier le syndicalisme suisse de complaisant dans le sillage de notre profil consensuel. Mais dans les faits, même si certaines mouvances plus proches des universités sont apparues il y a quelques décennies et ont pu radicaliser quelque peu les rangs syndicaux vieillissants, le citoyen suisse est faiblement syndiqué. De l'autre côté, l'internationalisation des sphères dirigeantes du monde du travail dès les années 80, avec notamment l'arrivée de beaucoup de multinationales, a probablement pas favorisé le dialogue social, comme on aime l'appeler ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux chiffres. En 2012, 3000 manifestants estimés au cortège du 1er mai à Genève. Cette année, 2000. Au-delà de la différence numérique qui ne veut pas dire grand-chose, c'est surtout l'ordre de grandeur qui est marquant. C'est relativement faible, comme me le disait encore Hugo en off, si on doit le comparer à l'international. Et puis évidemment que tout le monde n'avait pas congé aujourd'hui, probablement pas la majorité d'ailleurs. Voilà, j'ai été faire ma petite balade, non sans difficulté, je vous raconte. Je me suis fondu cet après-midi dans le cortège qui démarrait à 13h30, boulevard James Fazi, nom d'un grand réformateur radical de Genève du 19e siècle, ayant milité pour la condition des bas revenus et des pauvres en général. Arrivé sur place, premier coup de tonnerre. J'ai cassé les clés de mon cadenas à l'intérieur de celui-ci. Du coup, ce qui va suivre, c'est des fragments d'une immersion un peu empêtrée d'un vélo au milieu d'une foule de 2000 personnes. Et puis, je vous promets que c'était pas l'endroit pour ce genre de folie, quoi.
Vous marchez aux couleurs du Syndicom. Est-ce que j'ose vous demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il représente ?
Alors, Syndicom, c'est le principal syndicat de la logistique. Et on couvre aussi le secteur des télécommunications et puis des médias.
Et en ce moment, quels sont les, les enjeux auxquels vous êtes confrontés. Qu'est-ce qu'il y a à défendre actuellement dans ce secteur-là ?
Eh bien, une régulation du marché, une amélioration des salaires. Et puis un problème qu'on rencontre beaucoup, c'est les burn-out, parce que trop de pression sur la place de travail dans la livraison.
Et ça, c'est cette pression, vous la ressentez du côté du patronat ?
Alors du patronat, mais c'est surtout nos travailleurs qui la subissent et puis qui nous en font part.
Cette pression-là, elle est justifiée comment par les directions, vous savez ?
Bon, bah, toujours la même chose, hein, plus de productivité, plus de rentabilité, et puis le patronat oublie l'humain, parce que sans l'humain, bah, y a pas de travail. Hein.
Et vous, personnellement, la santé du syndicalisme en Suisse, comment vous la ressentez ? On sait qu'historiquement, elle est réputée assez faible. Est-ce qu'elle est plutôt en train de se renforcer ces dernières années, ou est-ce que c'est difficile de trouver de nouveaux adhérents ?
Alors, pour les secteurs dont Syndicom s'occupe, en particulier dans la livraison, on est en train de se... Ça fait 3-4 ans qu'on se renforce. C'est-à-dire qu'on a finalement plus d'adhérents qui nous rejoignent que d'adhérents qui nous quittent. Donc ça, c'est très positif.
Vous demandez, vous représentez la SINA.
Oui.
Quels intérêts défend la SINA?
Alors, SINA, c'est un syndicat interprofessionnel. Ça veut dire que nous sommes présents dans toutes les branches du secteur privé, de l'hôtellerie-restauration, en passant par la coiffure jusqu'au bâtiment. On est présents. Et puis, la revendication principale cette année, c'est que la vie coûte cher, il y a l'inflation, mais les salaires ne suivent pas. Donc, notre revendication principale, c'est que les salaires suivent le coût de la vie, pour que les travailleurs puissent vivre dignes et libres, parce que la dignité n'a pas de prix.
Et est-ce que vous avez réagi aussi à la mention Edlin ? C'est un parlementaire qui a demandé que les conventions collectives priment sur le salaire minimum qu'on a voté à Genève.
Oui, absolument.
Ça concerne la SINA aujourd'hui ?
Oui, absolument. SINA est partie de la CGS, et c'est au sein de la CGS que nous sommes en train de mener le combat contre la motion Edlin, qui est un scandale, parce que déjà, les 24 francs de l'heure à Genève, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, même si c'est plus que ce que les autres cantons ont, mais évidemment que nous, on ne peut pas accepter la motion Edlin, donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de nous battre aujourd'hui, au sein de la CGS.
Et une dernière question, est-ce que vous, personnellement, vous avez ressenti l'évolution ces dernières années des prix de l'assurance, de la vie, en fonction de votre salaire ?
Ah oui, la vie coûte de plus en plus cher, hein. On voit le prix des produits de première nécessité, les assurances maladie qui ne cessent d'augmenter. Par contre, les salaires stagnent. Le vendredi dernier, les patrons se sont réunis au cours de leur assemblée générale, l'affaire, où ils disent que la santé de l'économie suisse est très bonne. Par contre, les salaires ne suivent pas. Donc, quelque part, aujourd'hui, nous sommes en train de faire la démonstration aux patrons pour que les salaires puissent augmenter véritablement, pour que les travailleurs puissent payer à la fois leur loyer, les primes d'assurance maladie et pouvoir vivre décemment.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Voilà, donc un syndicalisme diffus et éclaté pour certains à cause des transitions de nos structures économiques notamment. Peut-être aussi qu'au-delà des ouvriers qui disparaissent petit à petit avec le monde industriel, c'est aussi un nouveau groupe qui pourrait empoigner la marche et porter plus haut les revendications des ouvriers, des travailleurs, des employés les plus précaires. Et ce groupe-là, ce sont peut-être les femmes.
Je vais vous demander si pour vous c'était un signal, si c'était symbolique, le fait que la grève des femmes soit en tête du cortège de la fête du travail. Est-ce que pour vous ça veut dire quelque chose ?
Je pense que c'est pas symbolique, c'est important. Il y a beaucoup d'attaques contre les femmes au niveau de la VL, du LP, de la LPP et les inégalités et tout. Donc c'est important.
Même dans le milieu de l'UNI, je pense, pas en termes de salaire, mais en termes de poste.
Pour vous, c'était lourd de sens que la grève des femmes soit en tête de ce cortège de la fête du travail.
Oui, bien sûr. Bah, les femmes travailleuses, on a encore plus de revendications que d'autres travailleurs, dans le sens où il y a beaucoup de licenciements abusifs liés à la maternité. Et donc il y a d'autant plus de protection à avoir, donc il faut les mettre en avant, absolument. Il faut visibiliser tous les droits des travailleurs, mais surtout les droits des femmes.
La dernière voix que vous venez d'entendre vous convie le 6 mai, c'est un samedi, le samedi 6 mai à 10h, dans les locaux d'UNIA, pour une formation destinée aux femmes, afin d'apprendre à défendre ses droits au travail. Et puis, cette grande manifestation du 1er mai, c'était aussi l'occasion d'en apprendre plus sur la convergence des luttes. Cette convergence des luttes m'a amené à, à m'orienter vers les militants écologistes, pardon, qui étaient présents notamment grâce à Renovate, un des nombreux groupes qui militent. J'ai donc cherché à en savoir un peu plus sur la connivence entre milieux syndicaux et milieux écologistes.
Banane, d'université de Genève. Je vais vous poser une petite question, je vois que vous portez les casquettes du site. Et je lisais le bulletin du mois d'avril ce matin, qui s'appelle Justice sociale et justice climatique. À votre avis, pourquoi lier ces deux enjeux, c'est madame peut-être ?
Bah parce que c'est une question d'équité. Donc quand on parle de la justice sociale et on parle de la justice de l'environnement, pour que la société puisse bien fonctionner, il y a tous ces paramètres-là qui entrent en ligne de compte. On doit s'occuper de l'environnement, on doit s'occuper aussi de la société. Et du coup, la société, ce sont les personnes qui forment cette société. Elles doivent avoir le bien-être, le mieux vivre. Et c'est pour ça qu'on doit toujours les lier. Ouais.
Et dans l'autre sens, les militants pour le climat ont aussi un message pour le monde du travail.
Je veux dire, on travaille dans un environnement, hein. Et du coup, sans environnement, il n'y a pas de travail. D'un point de vue plus politique, il faudrait accélérer la rénovation des bâtiments de manière énorme pour atteindre nos objectifs climatiques. Les maçons sont là aujourd'hui avec nous. Et je pense qu'il y a vraiment une vraie convergence à avoir entre la bonne le travail, il faut le mettre au bon endroit. C'est-à-dire, ce travail de construction du bâti, il faut le mettre dans la rénovation, former les bonnes personnes au bon endroit et arrêter de construire des bureaux qui seront pas utilisés, en fait.
Si on fait juste d'aider les propriétaires et les entreprises à faire la transition écologique, les gens vont s'appauvrir, ça va être la catastrophe sociale. Donc il faut les deux en même temps.
Voilà, c'en est tout pour ma balade. Merci d'avoir, pas de m'avoir écouté finalement, mais d'avoir écouté ces gens qui sont sortis braver la fraîcheur de ce mois de mai. Et ma balade qui n'est évidemment pas exhaustive, hein, je voulais simplement le dire, j'ai oublié plein de gens car le cortège était fourni non seulement des organisations syndicales traditionnelles, mais aussi celle de la défense des droits du peuple palestinien, des Péruviens, des élites écologistes, ou encore même la CGT d'Annemasse, mesdames, messieurs, était présente avec un cortège d'une dizaine de personnes. Je vous laisse là-dessus, c'était rigolo. Voilà,
bah,
merci beaucoup.
Bah merci pour cette chronique, pour cette immersion, Lucien. Et c'est avec cette chronique qu'on va terminer cette émission dans ton campus, 50e épisode. Ce soir, c'était un petit peu dans ton campus et au-delà, hein, puisqu'on est allé dans l'univers, ensuite on est allé dans le monde arabe avec Rabab et ses invités, et puis on a terminé avec les luttes syndicales et les cortèges du 1er mai à Genève. Une belle émission donc avec vous, Lucien et Rabab, merci à vous deux.
Merci à toi.
Merci à toi, Hugo.
Et on se réjouit de revenir très très vite avec des nouveaux contenus, des nouvelles émissions, restez à l'écoute de Fréquence Banane, suivez-nous sur les réseaux aussi, et surtout, portez-vous bien, à très vite.
Campus.
Prochain arrêt dans ton
campus.
Il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école.
Campus.
Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard.
Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein.
Campus.
Prochain arrêt.